Hola, hola, chers auditeurs. Vous êtes à l'écoute de Rencontres Lusophones, émise sur la fréquence 96.9 et proposée par Radio Résonance Bourges. Une émission qui, vous le savez déjà, vous parle de notre pays d'origine, le Portugal. Ce soir, vous aurez deux voix de filles et la voix de notre technicien préféré. Dois-je dire préféré ?
Oui, il y a intérêt.
T'es tout seul. Celle de Jeff, que vous avez reconnu et qui assurera la technique ce soir. Martine pour la petite chronique du jour et moi-même Hélène. On fait évidemment un petit coucou à notre cher Manu, le deuxième garçon de l'équipe, qui est parti où cette couscous-ci ?
Au Chili.
Au Chili. Bonsoir Jeff.
Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Bench posto ?
Ben posto, je sais pas, oui.
Oui ? Mmh. Oui, tu sais oui. Ce que ça veut dire ?
Non.
Oui, ben je te l'ai déjà dit.
Bien, fidèle au poste ?
Ça pourrait être, mais je te demande si tu es en forme.
Ah, en forme ? Ben oui.
Oui ?
Oui,
oui. Ok. Ce soir, tu le sais, c'est la dernière émission de la saison. Enfin, dernière, pas tout à fait. Parce que nous continuerons à émettre tout l'été sur les ondes de Radio Résonance. Donc ce soir, ce sera notre dernière émission inédite et en direct, je rectifie, puisque nous prenons des vacances. Mais évidemment, nous laissons notre créneau ouvert, puisque nous rediffusons des émissions de l'année écoulée. Généralement, ce sont nos meilleures émissions, celles qu'on a préférées.
Exact.
Voilà. Ce soir, je vais vous faire donc quelques petites propositions de visite insolites au Portugal. Des coins que vous ne connaissez peut-être pas encore ou peut-être que vous aimeriez redécouvrir. On fera également un point pandémie au Portugal et on listera pour vous les événements qui ont été annulés pour cause sanitaire. Excusez-moi. Mais pour l'instant, laissons la parole à Martine qui ce soir nous emmène loin, très très loin, sur une île perdue de l'Atlantique Sud, vers les 40e rugissants. Rien que le nom, tu vois, j'en perds la voix. Elle va nous parler d'une île britannique qui porte un nom portugais.
Bora!
Résonance 96.9.
Sur Rencontre Lusophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la petite chronique.
C'est la petite chronique.
Hola, salut Pissom. Vous vous êtes fait vacciner. Vous rêvez à nouveau d'une vie plus nomade, d'une liberté de mouvement de voyage. Rien de plus normal en ces temps actuels de pandémie qui sévit à travers le monde. Ce soir, vous pourrez voyager en ma compagnie. Je vous ai trouvé l'endroit idéal, loin de tout. Une île rien que pour vous. Enfin, presque. Suivez-moi sur l'île Tristan da Cunha, renommée d'être l'île la plus isolée du monde. En effet, l'île Tristan da Cunha, territoire du Commonwealth, fait partie d'un petit archipel de 6 îles au beau milieu de l'Atlantique du Sud. Elle se situe à 8432 km de Lisbonne au nord, à 3360 km de Rio de Janeiro et à 2800 km du Cap en Afrique du Sud. L'île la plus proche est en Sainte-Hélène, qui se trouve à 2410 km de distance. Cette petite île volcanique d'à peine 10 km de diamètre n'a que très peu de végétation. L'île est balayée constamment par des vents d'ouest très forts et violents, empêchant aux arbres d'y pousser. N'oubliez pas, elle se situe à côté des 40e rugissants. Le Peak Queen Mary culmine à 2062 mètres et est un volcan actif, créant un microclimat avec des alternances imprévisibles de pluie et de soleil. Ce petit bout de terre a été aperçu la première fois par le navigateur portugais Tristão da Cunha en 1506. Toutefois, le navigateur se contenta de noter sa position, continua sa route sans y accoster car la mer était bien trop agitée. À partir de 1509, l'île apparaîtra sur les cartes et servira de point de repère sur la route des Indes. Suite à la défaite de Waterloo, les Anglais exilèrent l'ex-empereur Napoléon Bonaparte à Sainte-Hélène. Pour éviter sa fuite, des garnisons anglaises furent placées sur les îles voisines de Sainte-Hélène, dont Tristan da Cunha. C'est ainsi que les premiers habitants arrivèrent avec le soldat écossais William Glass, accompagné de sa famille, de quelques hommes célibataires et d'un groupe de femmes volontaires. La population commença donc à se développer à partir de 1816. Au fil du temps, l'ère du voilier se termina et fut remplacée par de grands bateaux à vapeur. Les arrêts sur ce lopin de terre étaient donc de plus en plus rares. La population fut contrainte à survivre par leurs propres moyens et l'autodépendance s'installa. Les Tristans, de plus en plus isolés, furent ainsi épargnés de l'épidémie de la grippe espagnole qui ravagea le monde entier lors de la Première Guerre mondiale. Après une violente éruption volcanique en 1961, le gouvernement britannique décida d'évacuer en totalité la population de l'île vers le Royaume-Uni. Mais, confrontés soudainement à la modernité et sans être séduits par son bienfait, presque toute la population tristane retourna sur leur île isolée. Depuis peu, cette île reculée peut se targuer d'un nouveau titre, l'un des sanctuaires marins les plus grands du monde. En novembre 2020, le gouvernement de Tristan da Cunha vote la loi de protection en aire marine, protégeant ainsi la quasi-totalité des eaux territoriales de l'archipel, soit 700 000 km², faisant à cette date-là la quatrième plus importante réserve marine au monde. Le but étant de sauvegarder un site naturel important pour sa biodiversité. L'île abrite des dizaines de millions d'oiseaux marins, dont des espèces menacées, tels l'albatros ou le puffin à lunettes, ainsi qu'une précieuse faune sauvage maritime. Il va de soi pour les Tristans d'y veiller au mieux, car l'océan représente une source vitale pour leur économie et leur survie à long terme. Vous êtes toujours partant pour le voyage et la découverte de ce petit morceau de terre soufflé par les vents? Je n'ai crainte, certains de nos auditeurs ont déjà la valise et le passeport en main. Mais sachez être patient, car ce voyage se mérite. N'ayant pas d'aéroport, la seule façon d'y accéder, c'est par la mer grâce à un bateau en partance du Cap en Afrique du Sud. La traversée ne prend que 7 jours, voire plus, en fonction de l'état de la mer. Comme il n'y a pas de grand port, les gros bateaux doivent faire du mouillage, ce qui implique des navettes hors-bord pour décharger touristes, insulaires et marchandises. Encore une fois, il faudra compter 2 à 3 jours de plus d'attente en mouillage si les conditions météo ne sont pas bonnes. Décidez, emmenez donc de quoi lire, et pourquoi pas le roman d'Hervé Bazin, Les Bienheureux de la Désolation. Un roman plein de couleurs, de mouvements qui retrace la vie des insulaires lors de l'éruption volcanique du Pic Queen Mary jusqu'à leur retour sur l'île. En quelque sorte un conte philosophique qui aurait l'avantage d'être vrai. Et maintenant, fin prêt? Si oui, bon voyage au plus téméraire.
Fiz-me ao mar com lua cheia, a esse mar de ruas e cafés, com vagas de olhos a rolar, que não me viam no convés, tão cegas no seu lugar. Deparei com uma ilha, uma pequena maravilha, meia submersa, resistindo à toada, deu-me dois dedos de conversa, já cheia de andar calada. Tinha um olhar acanhado e uma blusa azul-grená, com o botão desapertado e por dentro tão ousado, um peito sem sutiã. Ancora às vezes também fazia um poema. E no cabelo vi-lhe coxa, e na boca uma pérola a brilhar. Despiu o olhar de defesa, pôs-me um mapa sobre a mesa. Deu-me conta dessas ilhas, arquipélagos ao luar, com os areais estendidos contra a cegueira do mar.
C'est l'heure de la chronique culturelle
de Rencontre Lusophone.
Ce soir, je vais vous faire quelques propositions de visite. Bon, en temps normal, le mois de juin au Portugal est un mois de fête, puisqu'il marque la célébration des trois grands saints populaires, Saint Antoine, Saint Jean et Saint Pierre. Sauf que, sans vouloir jouer les oiseaux de mauvais augure, je ne vous apprendrai rien en vous disant que cette année, toutes ces festivités sont un peu compromises. António Costa, le Premier ministre portugais, s'est d'ailleurs exprimé cette semaine à cet effet, en disant qu'il regrette évidemment que les fêtes ne puissent pas être normalement maintenues pour la seconde année, mais il craint évidemment que les grandes concentrations de personnes ne fassent reflamber la pandémie. Il en sera de même pour tous les pèlerinages se déroulant normalement pendant l'été, c'est-à-dire en juillet et en août. Cette année donc, pas de pèlerinage au Portugal. Les fameuses romarias n'auront donc pas lieu. En tout cas, pas dans la forme qu'on leur connaît d'habitude. Il est possible que deux ou trois manifestations avec restrictions, bien évidemment, se déroulent ici et là. Mais, comme on a l'habitude maintenant depuis déjà 2 ans, c'est l'évolution de l'épidémie au Portugal qui décidera de la marche à suivre. Mais je vous en dirai plus et plus en détail tout à l'heure. Et je rebondis sur le mot « marche » pour vous parler des fêtes populaires qui, en temps normal, se déroulent en ce moment même au Portugal. En effet, au Portugal, on parle plus volontiers de « marches populares ». Là aussi, tout est un peu perturbé cette année. À Lisbonne, on a joué la sécurité en annulant toutes les manifestations liées à Saint-Antoine. Ceci dit, vu comment la pandémie recommence à flamber à Lisbonne, je pense qu'il est sage, en effet, d'éviter les grands rassemblements et la promiscuité. Et je vais faire un peu ma langue de vipère, quoique, en ajoutant que si la Ligue des Champions entre deux clubs anglais, je dis bien deux clubs anglais, ne s'était pas déroulée il y a tout juste 3 semaines dans la capitale portugaise, elle n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Au point, le Portugal continue donc de déconfiner, tout doucement, sa population, sauf à Lisbonne et dans 2-3 autres villes dans le pays où le gouvernement préfère rester encore assez prudent. Frontières, tests PCR, vaccins, passe sanitaire, lieux ouverts, on fera le point avec ça tout à l'heure. Pour l'instant, je vous propose de goûter un peu à l'ambiance des fêtes populaires parce qu'au Portugal, certains d'entre vous le savent déjà, le mois de juin est un mois très particulier puisque c'est celui des fêtes populaires, celui où on oublie les soucis du quotidien pour être dehors, écouter de la musique, danser, faire des rencontres, manger de la sardine grillée, boire à foison, enfin faire la fête quoi. Pour vous mettre dans l'ambiance, voici une musique, une chanson typique des Marches Populares. Il s'agit de A Marcha de Santa Catarina, un des quartiers typiques de Lisbonne, qui tous les ans participe au concours des meilleures marches de la Saint-Antoine. La chanson est interprétée par Adet Castro. Pour ceux dont le cœur bat plus pour Porto, pas de jaloux. puisque dans la prochaine pause musicale, on vous passera une marche de Porto. Pour l'instant, voici A Marcha de Santa Catarina.
Saiam da frente, para a gente estar sempre presente. Cantam por nós, andamos todas assim, que a nossa voz, enfim, quer mais calor. Dá-me o teu braço, mas não vais em desvarios, porque Santa Catarina foi em Lisboa a ver navios. Por toda a parte este bairro predomina, não há marcha mais vistosa que a de Santa Catarina.
Dá-me o teu braço, mas não vais em desvarios, Santa Catarina foi Lisboa a ver navios. Por toda a parte este bairro predomina, a marcha mais vistosa é de Santa Catarina.
O meu balão há de chegar à lua com a paixão da rua e do meu pai. Meu bairro traz o Tejo amado e das marés faz o bailado. Que ressoa assim no que melhor para mim conta em Lisboa. Dá-me o teu braço, mas não vais em desvarios, porque Santa Catarina foi em Lisboa a ver navios. Por toda a parte este bairro predomina, não há marcha mais vistosa que a de Santa Catarina.
Dá-me o teu braço, mas não vais em desvarios, porque Santa Catarina foi em Lisboa a ver navios. Por toda a parte este bairro predomina, não há marcha mais vistosa que a de Santa Catarina.
C'était à Marcha de Santa Catarina. Donc, avant d'aller plus loin dans ce qui va se passer cet été au Portugal, et plus précisément en ce qui concerne les événements qui auront lieu et ceux qui ont été annulés, voici un petit topo très rapide de la situation sanitaire au Portugal afin de vous préparer au mieux si vous vous préparez à voyager au Portugal. La pandémie continue à se stabiliser, voire même à baisser légèrement sur l'ensemble du territoire portugais, sauf à Lisbonne et sa petite et grande couronne que l'on appelle au Val do Tejo. Puisque aux dernières données, Lisbonne et sa région pourraient dépasser 240 cas pour 100 000 habitants en moins de 15 jours, ce qui est quand même important. Ce qui veut dire donc que le fameux RT, l'indice de transmissibilité du virus, présente des valeurs supérieures à 1, puisqu'il est aujourd'hui à Lisbonne de 1,14. Ce qui veut dire que chaque personne contaminée en contamine plus d'une. Et je vous rappelle que pour que l'on dise que la pandémie se stabilise, il faut que cet indice soit inférieur à 1. On peut donc dire qu'à ce jour, la situation devient légèrement préoccupante à Lisbonne. Les autorités sanitaires estiment même que dans les semaines à venir, le variant Delta que l'on associe à l'Inde pourrait bien se chevaucher avec le variant Alpha, qui, je vous le rappelle, est le variant anglais qui est devenu dominant au Portugal depuis le mois de mai. Au mois de mai, donc, il y a eu, je vous le rappelle, à Lisbonne, une finale de foot entre deux équipes britanniques et des hordes d'anglais pour y assister sans quasi aucune mesure de protection. Je dis ça, je ne dis rien. Voyons maintenant ce qu'il faut savoir si vous voyagez vers le Portugal. La bonne nouvelle, c'est que le pays autorise à nouveau, depuis le 17 mai, les voyages touristiques sans quarantaine pour la plupart des pays européens, dont la France. Ce qui veut dire en gros que vous pourrez, en toute tranquillité, en faisant attention bien sûr, boire un verre en terrasse, vous payer un petit resto, faire du shopping ou aller voir une exposition ou visiter un musée. La question qui se présente maintenant, c'est de savoir s'il faut être vacciné ou s'il suffit de faire un test PCR. Là aussi, après avoir supprimé la quarantaine, le Portugal a également allégé les conditions de venue des touristes français, vaccinés ou non, ainsi que pour tous les pays de l'espace de Schengen. Les frontières avec l'Espagne sont évidemment réouvertes, les tests antigéniques sont désormais acceptés, et malgré quelques signaux de reprise épidémique très localisés ces derniers jours, le pays poursuit sa dernière phase de déconfinement, ce qui veut dire, je le répète, que la vie retrouve peu à peu une certaine forme de normalité. Le Portugal annonce d'ailleurs, à l'image de ce qui se passe déjà dans l'ensemble de l'Europe, qu'il se prépare à déployer sur tout son territoire le fameux sésame que l'on espère pour tous et qui est le pass sanitaire. Avant de vous embrouiller le cerveau et avant de voir en détail les conditions de déplacement vers le Portugal continental, Chose promise, chose due. Pour la deuxième pause musicale, voici une marche de Porto. Elle nous parle des fleurs de poireau que l'on utilisait autrefois pour taper sur la tête des passants la nuit de la Saint-Jean. Ces fleurs, on les a remplacées aujourd'hui par des petits marteaux en plastique. N'empêche que c'est pour les garçons un moyen, ou c'était toujours, c'est toujours un moyen pour les garçons de draguer les filles. C'est la chanson qu'il raconte. On écoute Dal Dal Raperig.
Dale, dale, dale com o olho, rapariga. Dale, 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 mas não caias na cantiga. Olha que os rapazes aproveitam São João. Dale, 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 mas não dês o coração.
Dale, dale, dale com o olho, rapariga. Dale, 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 mas não caias na cantiga. Olha que os rapazes aproveitam São João. Dale, 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 mas não dês o coração.
Oh, meu amor, andei de rua em rua a cantar contente com animação. Veio toda a gente e até mesmo a lua desceu lá do céu para cantar a São João. Com o meu amor andei a noite inteira, fui ao bailarico, pois à mimada comprei manjerico, saltei a fogueira e dei com o olho em toda a rapaziada. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe com o olho, rapariga. Dá-lhe, 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 mas não caias na cantiga. Olha que os rapazes aproveitam São João. Dá-lhe, 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 mas não dês o coração.
Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe com o alho, rapariga. Dá-lhe, 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 mas não caias na cantiga. Olha que os rapazes aproveitam São João. Dá-lhe, 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 mas não dês o coração.
É noite de festa, que coisa tão boa. Há tipos brejeiros e ninguém diz nada. Andam os tripeiros de cabeça à toa, que a gente nem sente os apertos na noitada. Fazem-se cantigas com graça, com jeito. Tudo é brincadeira, tudo é gargalhar. A noite é fogueira, queimando no peito, e as moças parecem bichinhas de rabiar. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe com o olho, rapariga. Dá-lhe, 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 mas não caias na cantiga. Olha que os rapazes aproveitam São João. Dá-lhe, 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 mas não dês o coração.
Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe com o alho, rapariga. Dá-lhe, 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 mas não caias na cantiga. Olha que os rapazes aproveitam São João. Dá-lhe, 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 mas não dês o coração.
Je récapitule donc, pour aller au Portugal, pas de contrôle aux frontières, en tout cas pas de test, pas de contrôle de vaccin. Il vous suffit d'être soit vacciné, soit de faire un PCR pour ce qui est de la route. Voyons donc maintenant le détail des conditions de déplacement vers le Portugal continental. Si vous avez décidé d'y aller en avion, il faut savoir que tous les voyageurs, à l'exception des enfants de moins de 2 ans, en provenance de l'espace Schengen et de pays associés à l'espace européen, c'est-à-dire le Liechtenstein, la Norvège, l'Islande et la Suisse, ainsi que le Royaume-Uni, tous les voyageurs en provenance des pays que je viens de citer devront obligatoirement présenter un test PCR négatif effectué dans les 72 heures précédant l'embarquement, ou un test antigénique réalisé par un laboratoire et effectué dans les 24 heures précédant l'embarquement. Les autotests, quant à eux, ne seront pas acceptés. Si vous voyagez par voie terrestre ou maritime, donc si vous arrivez en voiture, il faut savoir que les contrôles aux frontières entre le Portugal et l'Espagne ont été levés. Pour traverser l'Espagne en voiture, il vous faut juste savoir que le port du masque n'est plus obligatoire en extérieur. Il faudra juste le porter en intérieur dans les boutiques, les stations-service et autres espaces publics clos. Le débarquement des passagers de bateaux de croisière est autorisé dans les ports portugais, mais il est évidemment soumis aux mêmes règles que le trafic aérien, c'est-à-dire avec présentation d'un test PCR de moins de 72 heures ou un antigénique de moins de 24 heures. Si vous arrivez au Portugal à partir d'un pays extérieur à l'Union européenne, il faut savoir qu'en conformité avec les recommandations du Conseil européen, le Portugal autorise les vols en provenance des pays et territoires suivants: l'Australie, la Chine, la Corée du Sud, Israël, le Japon, la Nouvelle-Zélande, le Rwanda, Singapour, la Thaïlande et les régions administratives de Hong Kong et de Macao. En dehors de cette liste et des États-Unis d'Amérique, le trafic aérien entre le Portugal et les pays qui ne font pas partie de l'Union européenne ou qui ne sont pas associés à l'espace Schengen reste suspendu, à l'exception des voyages dits essentiels, c'est-à-dire si ça concerne le retour sur son lieu de travail, de résidence principale, ou des études, ou un regroupement familial, ainsi que des raisons de santé. Ces voyageurs devront malgré tout présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures. Sans présentation de ce test PCR, ils seraient soumis à un test à leurs frais lors du débarquement, donc pas d'entrée sur le territoire portugais sans test PCR. Il faut également savoir que l'absence de présentation d'un document attestant de la négativité à la COVID-19 ou le refus de se soumettre à ce test pourront exposer le récalcitrant à une amende de 300 à 2000 euros quand même. Ça peut être dissuasif. En ce qui concerne les voyages en provenance d'Inde, d'Afrique du Sud, du Népal ou du Brésil, ou ayant séjourné dans ces pays les 14 jours précédant leur arrivée au Portugal, devront eux aussi présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures, ou de toute façon, ils seront malgré tout soumis à un isolement prophylactique de 44 jours à l'arrivée au Portugal, à domicile ou dans un lieu désigné par les autorités portugaises dès leur arrivée. La situation sanitaire de dernière minute à Lisbonne, avec la recrudescence des cas positifs à la Covid, interdit de circuler de et vers l'aire métropolitaine de Lisbonne du vendredi 18 juin à 15h au lundi 21 juin 6h du matin. Ce qui veut dire qu'en l'état actuel des choses, il vous faudra attendre lundi pour entrer dans Lisbonne et sa proche région. En cas de symptômes, vous pourrez toujours contacter la ligne d'urgence du Service national de santé portugais. Elle est ouverte 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 au 808 24 24 24. C'est tout simple, 808 24 3 fois. Ou contacter un médecin francophone dont vous pourrez retrouver la liste en appelant l'ambassade de France au Portugal. Ou bien, vous avez également le numéro d'urgence nationale, le 112. Et évidemment, comme partout en cas de difficultés respiratoires ou en cas de malaise, il est conseillé de ne pas se rendre aux urgences ni dans un cabinet médical, mais de s'isoler strictement à domicile en attendant l'arrivée des services d'urgence. Attention, toute personne testée positive à la COVID-19 durant son séjour au Portugal pourra être immédiatement hospitalisée ou placée en confinement strict en l'absence d'alternative dans un hôtel réquisitionné par les autorités, jusqu'à l'obtention d'un test avec résultat négatif. Tout cela, évidemment, aux frais de la personne. Dans des conditions d'isolement, ces conditions d'isolement donc pourront durer de quelques jours à plusieurs semaines. Tout dépendra le test PCR. Lors de votre séjour en France, normalement, il n'y a pas de contrôle. Lors de votre retour en France, pardonnez-moi, normalement, il n'y a pas de contrôle, mais les autorités françaises sont susceptibles de vous exiger soit la preuve d'avoir reçu la totalité des doses prescrites pour les vaccins homologués par l'Agence européenne des médicaments et datant de plus de 14 jours, ce qui est le cas pour les vaccins AstraZeneca, Pfizer ou Moderna, ou de plus de 28 jours pour le vaccin Janssen, puisqu'il est administré en une seule dose. Soit encore le résultat négatif d'un test PCR ou d'un test antigénique de moins de 72 heures avant le départ. Les justificatifs peuvent évidemment être présentés sous forme papier ou sous format numérique à travers l'application Tous Anti-Covid ou tout autre support numérique. Pour terminer avec toutes ces recommandations, il faut savoir qu'au Portugal, le port du masque est obligatoire pour les personnes de plus de 10 ans, sur la voie publique et sur le lieu de travail, lorsqu'une distanciation sociale de 2 mètres n'est pas possible. Des équipements de protection tels que les masques ou des visières sont obligatoires dans les espaces ne permettant pas une distanciation sociale, notamment les espaces fermés et à haute fréquentation, comme les services publics, les aéroports, les transports publics ou les taxis. Les personnes qui ne respecteraient pas ces règles encourent une amende pouvant aller jusqu'à 1000 euros.
Costas ao mar, o mundo que eu não quero adorar.
Voyons maintenant pour tout ce qui concerne les événements annulés ou pas cet été au Portugal. Et je commencerai par les fêtes des saints populaires. Pour la deuxième année consécutive, la nuit la plus animée de Lisbonne a été encore une fois assez calme, puisqu'il n'y a pas eu de défilé des marches populaires le long de l'avenue de Liberdade. Au nord du Portugal, la fête de la Saint-Jean sera elle aussi un peu plus timide que d'habitude. Et contrairement à ce qui s'est passé à Lisbonne, tout n'est pas totalement annulé puisque les villes de Porto et de Gaia ont tenu à organiser des petites foires dans les deux villes, mais avec beaucoup de contrôle et une capacité limitée en personne. Cette situation sanitaire a également conduit d'autres communes à prendre la difficile décision d'annuler ou de reporter des foires, des pèlerinages ou des festivals. Et c'est ce qui s'est passé à Viana do Castelo, une ville qui organise tous les ans au mois d'août le plus grand pèlerinage du Portugal, Nossa Senhora da Agonia, en 2020, l'année dernière donc, et pour la première fois en 250 ans d'histoire, le pèlerinage n'a été célébré qu'en format numérique en raison de la pandémie du Covid-19. Seul le 20 août, journée dédiée au saint patron des marins, a été célébré en présentiel, comme on dit aujourd'hui, avec une messe en plein air à l'église de Nossa Senhora da Agonia, mais avec des restrictions bien sûr. Dans un communiqué, la commission des festivités a indiqué que cette année, il a été admis qu'il sera déjà possible de les vivre, bien que toujours avec des restrictions. Donc, sans l'odeur de la fête, de la sardine grillée ou du basilic, de nombreuses localités soupirent déjà pour les fêtes de l'an prochain, en 2022, en espérant que la vie reprenne enfin son cours normal. En attendant, il y a toujours moyen de se rattraper avec d'autres événements culturels. Lisbonne, par exemple, vous propose jusqu'au 25 juillet la possibilité de vous faire une immersion complète dans l'œuvre de Van Gogh. Ça se passera à Belém pour la modique somme de 15 euros. Toujours à Lisbonne, vous avez encore 11 jours, soit jusqu'au 30 juin, pour un autre événement immersif. C'est un spectacle multimédia époustouflant qui évoque les œuvres de deux grands génies de la peinture, Monet et Klimt. Une expérience unique et sensorielle qui se tient dans un environnement tout aussi magique. Le château d'eau des Amoreiras, qui deviendra le temps du spectacle, la toile de fond de ces deux peintres. Le tout accompagné d'une musique soigneusement choisie. Et si ce spectacle vous intéresse, je vous conseille vivement de réserver vos places en ligne avant votre départ au Portugal. Le ticket d'entrée est lui aussi à 15 euros. L'autre incertitude concerne le maintien ou non des festivals d'été. Avec le rebond de l'épidémie à Lisbonne, l'agenda 2021 devient donc de plus en plus petit et le nombre de reports à l'année prochaine ne cesse d'augmenter. Festival ou pas festival ? À Palais de Escura, par exemple, le président du festival croise les doigts pour que celui-ci ait bien lieu. En tout cas, il a déjà fait installer au moins une scène. Le reste, on verra après. Et la situation est la même pour les autres festivals, le Super Bock, Super Rock, le Small Summer Fest, le Meo Maj Vives, etc. Le Norse Music Festival a quant à lui préféré faire un report et vient de confirmer sa date du 30 septembre au 2 octobre. D'autres festivals annoncent d'ores et déjà leur nouvelle date pour 2022. C'est le cas du Eid Low Limits, des EDP Cool Jazz, tous deux à Cascais, du Rock in Rio à Lisbonne, du Norse Primavera Sound et du Voa Heavy Rock Festival. En dehors de tous ces événements annulés ou reportés, pas de panique, il y aura quand même des choses à faire pendant votre séjour au Portugal. Et vous pourrez toujours vous tourner vers des visites de musées ou des bâtiments du patrimoine. Quoi qu'il se passe, avant de vous rendre sur les différents sites, je vous conseille vivement de consulter leur site en ligne. En ce qui concerne les concerts, il semblerait qu'ils auront bien lieu cette année, dans le respect évidemment des règles sanitaires et avec des jauges précises bien évidemment. Alain Molle, par exemple, sera à Porto le 25 juin prochain, Noiserve à Bercelles le 26, Salvador Sobral sera à Lisbonne le 25 juin, Pedro Joia, toujours à Lisbonne le 26, Santa Maria à Porto le 26 juin, Amor Electro à Figueira da Foz également le 26 juin, Diana Castro à Lisbonne les 28 et 29 juin. Et en ce qui concerne le théâtre, il y aura la pièce Métamorphose, entre autres pièces, la pièce Métamorphose d'Ovid de San João das Lapas jusqu'au 27 juin. Et les monologues du vagin en portugais, bien sûr, à Lisbonne, et ce jusqu'au 30 juin.
Quando em Lisboa o povo mal me conhecia, o que era o fado eu quis saber. E tanto andei e perguntei a quem sabia, que finalmente pude aprender. Certo dia ao passar numa rua em Lisboa, um amigo poeta e cantor murmurou-me ao ouvido e a medo, o segredo do fado em Lisboa é o amor. O fado veio a Paris, a alfama veio a Pigalle, e até o Sena se queixa de pena que o Tejo não quis sair de Portugal. O fado veio a Paris, a alfama veio a Pigalle, e até Saint-Germain-des-Prés já canta o fado em francês. Vim a Paris para cantar e ser fadista, por certo não pensa ninguém que a mesma história do Lisboa e do fadista aconteceu aqui também. Certo dia ao entrar num bistrô para ouvir a java, alguém disse bonjour. A maliasse infinita a trouver le secret de la chanson de Paris, c'est l'amour. O fado veio a Paris, a alfama veio a Pigalle, e até o Sena se queixa de pena que o Tejo não quis sair de Portugal. O fado veio a Paris, a alfama veio a Pigalle, e até Saint-Germain-des-Prés já canta o fado em francês. O fado veio a Paris, a alfama veio a Pigalle, e até Saint-Germain-des-Prés já canta o fado em francês.
Vous avez certainement reconnu la voix, la grande voix d'Amalia. C'est un enregistrement de 1966 qu'elle avait enregistré à Paris avec l'Orchestre symphonique des Champs-Élysées. Et c'est toujours agréable de l'écouter parler français. On a passé en revue toutes les précautions à prendre avant de partir au Portugal, ainsi que les festivals, les concerts et autres. Mais au Portugal, il y a un tas de beaux endroits à découvrir en plein air. En plus, j'ai donc sélectionné pour vous deux sites à découvrir. Je les ai choisis parce qu'ils sont à l'air libre et là où normalement vous ne risquez rien, en tout cas peu de risques d'attraper la Covid. Le premier endroit magique que je vous propose de découvrir est le Cap da Roca, le point le plus à l'ouest du Portugal et donc de l'Europe continentale. C'est une falaise avec vue époustouflante sur l'océan Atlantique. Le jour où vous irez là-bas, prévoyez une petite laine. Il se trouve pas très loin de Lisbonne, à 42 km exactement, et fait partie de la région de Sintra. Ces falaises s'élèvent à environ 140 mètres au-dessus de l'océan Atlantique, et vous verrez là-bas, on a vraiment une sensation de bout du monde. Une fois arrivé à Cap da Roca, je vous conseille d'aller voir le phare, toujours en activité. C'est un magnifique phare rouge et blanc qui surplombe l'océan Atlantique et qui a commencé à fonctionner à la fin du XVIIIe siècle. Il mesure 165 mètres de hauteur. Vous pourrez ensuite aller voir le monument en pierre avec une croix au sommet où est inscrit le poème du célèbre Luís de Camões et qui dit « Onde a terra se acaba e o mar começa ». Et traduit en français, ça donne « L'endroit où la terre se termine et la mer commence ». C'est tout à fait ça en fait. Et puis, après être descendu de la falaise et après avoir roulé un peu, vous tomberez sur des plages superbes. C'est le cas de la Praia de Urs. Le chemin pour y accéder à pied est un peu raide, mais c'est quand même accessible. Un peu plus loin, il y a également la Praia de Adrag. et un peu plus loin encore, à Playa do Lourisal, très connue pour sa célèbre arche rocheuse.
Pedi para te despir, estava frio lá fora. Num fim de tarde, algures em Lisboa. Nós deitados na praia do outro lado. Frases de gata conversarem sem horário. E um dia era eu e tu, uma loira, e o rapaz que ela adora. Não, nem sei se ainda namoram.
Eu e tu, uma morena, e o rapaz que a chama pequena.
Atrasado outra vez.
Enquanto esperas adivinhar,
a canção que eu ouvi no teu carro está numa playlist minha.
E um dia era
eu e tu, uma loira, e o rapaz que ela adora. Nem sei se ainda namoram.
Eu e tu, uma morena, e o rapaz que a chama pequena.
Agora, não nem sei se ainda namoram.
Eu e tu, uma morena, e o rapaz que a chama pequena. Eu não queria, queria.
Eu e tu, uma loira, e o rapaz que ela adora. Eu não queria ir embora. Eu e tu, uma morena, e o rapaz que a chama.
Outro lieu, autre falaise, si vous voulez, si vous roulez un peu plus vers le sud, en direction de l'Algarve, vous pourrez aller voir et admirer un autre cap, c'est celui de San Vicente, auquel on a également donné le nom de Sagres, comme la bière. C'est le point le plus au sud-ouest de l'Europe. Et il paraît que lorsque les marins portugais sont partis il y a plusieurs siècles à la découverte d'autres terres, c'était le dernier bout de terre qu'ils apercevaient avant les mois passés en plein océan. Au Portugal, on a l'habitude de dire que c'est un promontoire stérile parce que c'est très sauvage et fortement balayé par les vents. Les falaises encaissées s'élèvent jusqu'à plus de 60 mètres de hauteur. Elles sont un peu moins hautes que celles de Cap Verroc, mais tout aussi impressionnantes. Et il paraît que les Grecs anciens l'appelaient la terre des serpents. Et à la même époque, les Romains préféraient curieusement désigner l'endroit comme promontorium sacrum, c'est-à-dire le promontoire sacré. Donc sacré et sagre, c'est un peu, on pense que c'est de là que viendrait l'origine du nom Sagres qu'on lui connaît aujourd'hui. Le phare de Sagres est également superbe, il est rouge et blanc, il a été construit sur le site d'un couvent franciscain du XVIe. Au fil des siècles, il a été successivement agrandi et modernisé et abrite aujourd'hui le musée aux Douches Faroes qui met nettement en valeur le rôle de Sagres dans l'histoire maritime du Portugal. On sait qu'il était à l'époque des grandes découvertes maritimes, l'un des phares les plus puissants d'Europe et l'une des voies maritimes les plus achalandées du monde. De nos jours, l'endroit est également très prisé par les randonneurs. Le cap est également une voie de passage très importante pour les oiseaux migrateurs en provenance et à destination de l'Afrique.
Thank you.
Cap d'Arc et Cap Saint-Vicens étaient deux exemples d'endroits sympas que vous pouvez aller visiter si vous allez au Portugal. Tout cela est à découvrir par vous-même au Portugal, mais si vous préférez visiter le Portugal en suivant un circuit préétabli et qui vous emmènerait dans des endroits inédits et peu fréquentés par les circuits touristiques traditionnels, ne bougez pas, on a ce qu'il vous faut. L'association France-Portugal vous propose un voyage original et authentique et en plus culturel. Il était préalablement prévu en 2020, mais avec la crise sanitaire, il a été reporté et maintenu du mercredi 15 septembre au mercredi 22 septembre 2021, donc dans quelques mois. Mais je dirais même quelques semaines. Il était préalablement, il se déroulera donc sur 7 jours, si on compte bien, et sur 7 nuits. Il est au prix de 2 226 € par personne, tout compris, et comprend donc les deux voyages en avion par Air France, les allers-retours Bourges-Roissy-Charles de Gaulle, tous les déplacements au Portugal, toutes les entrées de musées, toutes les visites de sites et des bâtiments du patrimoine, avec un guide francophone s'il vous plaît. La pension, quant à elle, est complète. Il vous faudra juste prévoir un petit pécule pour vos dépenses personnelles, cadeaux et autres.
Tu veux rappeler le prix parce qu'on n'a pas compris.
Le prix 1226. Voilà, sous réserve, je pense que c'est pour une quarantaine de personnes. Actuellement, je crois qu'il y a 36 personnes ou 32 personnes, donc... Voilà, c'est sous réserve, avec une petite augmentation peut-être si on n'atteint pas les 40 personnes. Mais que vous propose exactement ce voyage au Portugal? Eh bien, pour commencer, vous atterrirez à Porto. Ce sera donc le 15 septembre. Vous ferez un premier voyage direction Guimarães, puisque c'est là que vous passerez votre première nuit. Votre premier voyage dans l'histoire commencera donc dans la ville que l'on appelle la ville berceau du Portugal, puisque c'est là-bas qu'est né le Portugal. Et c'est donc une ville liée à la fondation du Portugal, où se dresse l'impressionnant château du roi du pays, les palais du duc de Bragança, Jean Bégueil, édifié au XVe siècle. On vous emmènera également visiter le palais des Ducs de Balaguins, très inspiré par les demeures seigneuriales françaises. C'est là-bas qu'en 1937 ont débuté d'importantes œuvres de restauration et le 24 juin 1959, exactement 831 ans après la bataille de San Mamed, le palais a ressurgi dans sa magnifique gothique d'inspiration normande. Dans l'aile nord du rez-de-chaussée se trouve un petit musée d'art contemporain avec des pièces que le peintre José de Guimarães, créateur du symbole du tourisme du Portugal, allégué à la ville où il est né. Vous aurez l'occasion également et tout le loisir de faire une découverte pédestre de la vieille ville classée par l'UNESCO. Elle était capitale européenne de la culture en 2012 et où vous pourrez déguster le fameux Vinho Verde. Le deuxième jour se fera en deux étapes. Vous irez tout d'abord de Guimarães à Felgueiras de Espinhão sur 121 km, puis la seconde étape se fera de Celulic da Beira à Belmonte. Après un petit déjeuner à l'hôtel, donc vous ferez route vers Felgueiras et vous pourrez visiter la fabrique de pão de ló de Santa Margarida, le fournisseur officiel de la cour royale portugaise et des ducs de Bragas. Ensuite, vous partirez vers Pinhão, un petit village au cœur du vignoble de Douro, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, après un déjeuner en croisière sur le fleuve Douro, à bord des Barcos Rabelo, les anciens bateaux qui transportaient les vins de Porto. Vous continuerez vers Celulic da Beira pour la découverte des traditionnels et des traditions culturelles et gastronomiques de la région de Museu d'Agricultura e do Queijo. Vous visiterez donc le musée do Agricultura do Queijo, ouvert en 2006 dans le but de promouvoir et de diffuser le fameux fromage de la région, ainsi que des éleveurs et agriculteurs. Vous pourrez rencontrer des acteurs illustrant le métier de fabrication de ce fameux produit portugais au Queijo da Serra. Le troisième jour, vous irez donc de Belmonte vers Covilhã et Castelo Branco, et la deuxième étape de Monsanto, Marvão à Porto Alegre. Vous ferez donc un petit déjeuner à l'hôtel et vous partirez vers Covilhã, célèbre pour ses laines et sa route de transhumance. Vous ferez une visite pédestre du centre historique avec l'église de Santa Maria couverte d'azulejos bleu et blanc. C'est célèbre azulejo. Vous pourrez visiter le musée du lainage, installé dans les bâtiments de l'ancienne fabrique royale de Palhos, construite sur décision du marquis de Pombal en 1754. Et puis vous irez vers Monsanto dans l'après-midi, le village typique d'Ajbeiras, surnommé le village au rocher, et donné aux Templiers par le roi Dom Afonso Henriques après sa victoire sur les Maures. Vous ferez ensuite route vers Marvão, un beau village situé au point culminant de la Serra de San Mamed, qui offre une superbe vue sur la route de l'Alentejo. Vous ferez ensuite direction vers Porto Alegre, qui est la capitale du nord de l'Alentejo et le point de passage important sous l'Empire romain. Vous dînerez donc et vous dormirez à Porto Alegre. Le quatrième jour vous emmènera de Porto Alegre à Monserrate, Évora et de Setúbal à Lisbonne. Donc vous partirez donc de Monserrate dans la région de l'Alentejo, sur les rives du fleuve Guadiana, près de la frontière espagnole. Et vous irez vers Évora, la ville médiévale fortifiée et son centre historique inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'après-midi, vous irez vers la péninsule Arábida et la ville de Setúbal. Vous visiterez la Quinta de Bacalhau, cette superbe quinta avec des beaux azulejos, et le Palácio de Bacalhau, ancienne résidence du don roi Carlos Ier. Vous pourrez déguster évidemment le vin de Muscatel de Setúbal et les vins, d'autres vins de la région. Vous irez ensuite vers Lisbonne en passant par Setúbal avec son église de style Manuela. Vous regarderez, vous passerez le long du fleuve Sado et la colonie des grands dauphins et vous dînerez à Lisbonne. Le septième jour, donc, à lui seul, se fera à Lisbonne et ce ne sera pas de trop. Vous irez donc à la rencontre des sept collines, hein, les grands quartiers, le Chiado, le Barro Alto, la Baixa, le Roussillo, Alfama, les grands quartiers comme Graça, Moreria, Belém. Vous irez jusqu'au Parc des Nations où a été faite l'Expo Universelle. Là, vous découvrirez la place du commerce, la tour de Belém également, le monument des découvertes, l'Assay, le château de Lisbonne. Vous pourrez monter sur l'ascenseur de Santa Justa. Vous irez également sur le pont du 25 avril, le palace d'Assemblée des Républicains et le célèbre monastère des Hiéronymites. Évidemment, vous ne pouvez pas louper la fameuse pâtisserie Nuspastej de Blain pour déguster le pastel de Blain, célèbre gourmandise typique de Lisbonne. Vous visiterez également le musée national d'Oiselage, qui est l'un des musées nationaux les plus importants pour sa collection singulière. Le sixième jour se fera de Lisbonne à Óbidos, et puis Coimbra et Aveiro. Donc là, à Óbidos, c'est un village fortifié avec ses remparts et son château médiéval. Vous y ferez une visite à pied dans les ruelles et dégusterez la liqueur de gingigne dans un verre de chocolat d'Óbidos. Vous irez ensuite vers Coimbra, l'ancienne capitale du Royaume du Portugal. Vous y déjeunerez dans un restaurant aux spécialités régionales. Vous visiterez également l'université classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'université de Coimbra, des écrans des étudiants habillés en noir. Vous ferez ensuite route vers la Costa Nova et la ville d'Aveiro, surnommée la Venise du Portugal avec ses canaux et ses barcos moliceiros. Le septième jour, vous irez de Aveiro à Porto et ensuite vous reviendrez à Aveiro. Donc vous irez visiter le musée navire de Santandré. Vous y verrez également le Palacio da Bolsa, le palais de la Bourse, le hall de la gare de São Bento à Porto et ses murs ornés de plus de 20 000 azulejos. Vous irez également sur la place de la Liberté, la statue du roi Pierre IV, le quartier de la Baixa à Porto et la librairie, la fameuse librairie Lelo. Vous verrez également la tour dos Clérigos et le pont Louis Ier. Vous visiterez également la maison Taylor des caves de l'autre côté, donc du Douro. Vous passerez à Gaïa pour visiter pas mal de caves, dont la maison Taylor. Et puis, vous dégusterez évidemment les vins de Porto. Le huitième jour sera le jour du départ. Vous irez de Aveiro à Porto. Voilà, donc tous les prix comprennent pas mal de choses. Évidemment, ce voyage n'est pas réservé aux habitants de Bourges, il est à ses environs. Nous mettrons de toute façon toutes les coordonnées sur notre page Rencontre Lusophone. Vous y trouverez tous les détails si vous voulez réserver votre voyage.
Un maximum de musique, un maximum de son. 96.9,
c'est Radio Résonance.
Merci pour votre écoute, que vous nous écoutiez de France ou d'ailleurs. On revient en direct à partir du 4 septembre. Mais même pendant notre absence, Rencontre Lusophone reste sur les ondes de Radio Résonance. Bonnes vacances à tous, soyez prudents, mais pas trop. Je vous embrasse.
Et oui, ainsi se terminent vos Rencontres Lusophones de ce soir. Dans quelques minutes, on sera en vacances. Mais ne soyez pas tristes, on vous laisse à l'antenne quelques-unes de nos meilleures émissions. Pour ceux qui souhaitent réécouter l'émission de ce soir, il y aura évidemment un rattrapage demain dimanche à 20h30. N'oubliez pas le podcast de cette émission qui sera dans quelques minutes sur la page de Radio Résonance ainsi que sur notre page radio qui porte le nom de notre émission Rencontre Lusophone au pluriel. Bonnes vacances à tous, bon week-end et sortez couverts et masqués. À tes mâches.